Suite du livre de Marie de Rocamadour. Commentaire d'un tableau de Marie. Depuis son enfance, elle écoute et prie, espérant la venue du Sauveur, car de tout son être, elle est fille d'Israël. Dans l'oraison qui emplit sa journée, elle attend le Messie annoncé par les Écritures. Elle-même, elle désire seulement être la petite servante du Seigneur, à qui elle a déjà donné tout son cœur. Et quotidiennement, elle aspire dans le silence à la réalisation des promesses de Yahvé pour le salut du monde. À peine a-t-elle entendu comme un murmure d'elle l'attirant de sa méditation profonde. La pièce est divinement embaumée d'amour à l'arrivée de l'inconnu. Immédiatement, elle pense avec joie à Joseph, son fiancé, qui doit travailler à quelques pièces de bois, là-bas, chez lui, dans son atelier. Mais un trouble, sans malaise pour autant, s'empare d'elle à entendre les paroles si belles et si mystérieuses du jeune étranger. « Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » La douce courtoisie de Dieu ne se fait pas attendre. Il sait en effet que la salutation est étonnante et pourrait inquiéter la Vierge si pure et si humble qui l'écoute. Et par son ange, il la rassure aussitôt. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras en toi et que tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob pour tous les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Gabriel a ainsi présenté la carte de visite de son Seigneur et Maître le Tout-Puissant qui la connaît par son nom. Mais alors, fils du Très-Haut, David, Jacob, se pourrait-il que l'avènement du Messie soit enfin tout proche? Marie le croit tellement qu'elle pose cette question de bon sens humain. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Unité évidente de sa personne entière dans l'étonnement où elle se trouve, c'est tout son être, corps et âme qui s'interroge. Observe-la, ses mains sont ouvertes, présentant son incompréhension. Ses sourcils, bien arqués dans l'étonnement qui l'habite, nous livrent son regard rivé sur son visiteur. Pourtant, ni ombre, ni crainte ne trouble son visage clair. Seule marque de cet étonnement paisible, sa bouche horizontale. Dans cette expectative, ni réjouie ni attristée, elle sait seulement qu'elle est fiancée à Joseph et qu'elle a promis de garder la chasteté. Parce que la nouvelle est bouleversante et telle qu'elle incompréhensible pour l'innocente jeune fille, Gabriel lui doit une explication. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Aucun doute en Marie ne vient s'opposer à cette révélation suprême, murmurée à son cœur comme un secret d'amour. Dieu lui demande d'être la mère de son fils, et rien ne lui est impossible car il est le Tout-Puissant. Elle n'a qu'une seule phrase à dire, et l'humanité sera guérie. Alors elle acquiesce de tout son être, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Marie devient dès cet instant un vivant tabernacle. En elle, Jésus a commencé à vivre dans le secret de ses entrailles par la toute-puissance créatrice du Saint-Esprit que le peintre a représenté sous la forme traditionnelle d'une colombe. L'Évangile nous dit qu'il s'est manifesté ainsi au moment du baptême du Christ dans le Jourdain. Ici, en plein vol, il semble becqueter le front de la Vierge auréolée. Le Saint-Esprit ne saurait être au repos, en effet. Il est l'incessante relation entre le Père et le Fils, cette parfaite communion dans un amour constant et réciproque qui unit les personnes de la Sainte Trinité entre elles. Et depuis le premier instant de l'univers, au souffle de tous les vents, il accomplit son œuvre créatrice à travers la matière et l'esprit. Mais il lui faut maintenant, pour agir et transformer le monde abîmé par le péché, l'acceptation libre de l'homme, le concours de ses facultés personnelles, l'exercice consenti de ce privilège qu'est la bonne volonté, donnée à l'être humain avec l'intelligence pour qu'il soit à l'image et à la ressemblance de son Créateur. La volonté de Marie est entièrement donnée et unie à la volonté divine. Aussi est-ce par là qu'il peut agir en elle et la rendre féconde. Regarde ce baiser d'amour déposé sur son front, par lequel le Saint-Esprit est venu recueillir son consentement. Par lui, le Verbe s'est fait chair en la Vierge, qui dès lors sait tout ce qu'elle doit savoir et ne demande pas plus. Toute remplie du Saint-Esprit, elle porte désormais le corps du Christ en elle. Jusqu'à présent, Marie était en communion spirituelle avec le Tout-Puissant. Elle attendait avec ferveur l'accomplissement des promesses de Dieu pour le salut d'Israël. Désormais, elle ne fait qu'un avec le Tout-Petit Dieu incarné en la personne de son Fils qu'elle porte en elle. Son corps est devenu le tabernacle du Sauveur. C'est pourquoi l'ange disparaît sans bruit, sa mission terminée, pour laisser Marie à son Eucharistie en ce jour de sa première communion. Marie informe-t-elle Joseph de la visite de l'ange avant de partir chez sa cousine Élisabeth ? Nous ne le savons pas. Il est possible qu'elle ait décidé le jour même de se rendre en Judée, car saint Luc nous dit que Marie, se levant, s'en alla en hâte au pays des montagnes, dans une ville de Juda, non loin de Jérusalem. Commentaire d'une autre peinture qui représente Marie avec Élisabeth. Maintenant, regarde la partie droite de la peinture. Deux femmes se retrouvent dans un élan d'affection qui les pousse l'une vers l'autre. Elles s'embrassent au sens littéral du mot. Elles se prennent mutuellement dans les bras et l'on sent bien que c'est à celle qui pressera le plus tendrement l'autre contre son cœur. Tu as reconnu Marie debout cette fois. Ce n'est plus elle qui reçoit la visite, mais c'est elle qui la rend à sa cousine Élisabeth déjà âgée. Marie, encore si jeune, ont eu sans doute peu souvent l'occasion d'être ensemble. Habitant des villages éloignés l'un de l'autre, peut-être même se connaissent-elles à peine. Mais à qui Marie pouvait-elle confier le secret qu'elle porte si ce n'est à Élisabeth, cette cousine restée sans enfant à un âge avancé, dont l'ange lui a révélé qu'elle aussi attendait miraculeusement un fils? C'est sans doute la raison de son départ en hâte vers les montagnes de Judée. Car l'essentiel les rapproche maintenant. Dieu les a choisis pour sauver son peuple. Marie porte une coiffe en forme de couronne pour maintenir son voile, car elle est en voyage. Sans doute vient-elle de parcourir plus d'une centaine de kilomètres depuis Nazareth jusqu'au voisinage de Jérusalem où habite Élisabeth. C'est-à-dire plusieurs jours de voyage à dos d'âne ou même à pied. Son genou gauche est levé, comme si elle était encore en marche. Il touche le genou droit de sa cousine, qui s'est élancée à sa rencontre. On comprend qu'elles se sont précipitées l'une vers l'autre, et pourtant, il n'y a rien de désordonné dans leur attitude. Leur hâte à s'étreindre est pleine de noblesse et d'élégance dans les gestes. Deux femmes simples et distinguées qui se chérissent, deux femmes choisies par Dieu pour lui permettre de sauver les hommes. Comme si à travers elles, Dieu voulait aussi nous signifier que dans sa miséricorde, il a pardonné à Ève d'avoir été l'instrument du désordre originel et que les femmes, dans leur vocation propre, peuvent faire de grandes choses par leur maternité. Leurs joues et leurs fronts se touchent. De loin, on croirait que le peintre leur a dessiné un œil en commun. Mais regarde de plus près. L'œil gauche de Marie et l'œil droit d'Élisabeth sont bien distincts. Seulement, ils regardent l'un dans l'autre comme pour symboliser l'union qui caractérise les deux femmes. Mais aussi peut-être parce que chacune voit en l'autre le miracle que Dieu vient d'accomplir. Élisabeth est une descendante d'Aaron. Elle est donc issue d'une classe sacerdotale. Mais sa mission n'est pas dans le temple comme son époux, Zacharie, descendant d'Abia et prêtre lui-même. La sienne est de mettre au monde le précurseur du Sauveur, celui qui le baptisera et annoncera « C'est lui le Fils de Dieu ». Saint Jean chapitre 1, verset 34. Les deux femmes nous donnent à voir leur visage qui se frôle dans la joie de la rencontre, car tous les hommes sont appelés à contempler le salut que leur maternité apporte au monde. Et toi qui admires cette scène, tu sais maintenant ce que Dieu a fait. À peine Marie prononce-t-elle la salutation d'usage, quand on arrive en visite, que l'enfant d'Élisabeth se manifeste. L'enfant tressaillit dans son sein, nous dit saint Luc. Le petit Jean, qui deviendra Jean-Baptiste, a reconnu Jésus le Messie, le Christ, celui dont il dira « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales ». Saint Luc, chapitre 3, verset 15. Par ses ancêtres paternels et maternels, Jean-Baptiste appartient à la classe sacerdotale. Lui aussi, il pourrait un jour accomplir à son tour ce service dans le temple, comme son père Zacharie. Mais déjà, il reconnaît son sauveur vivant dans le tabernacle du corps de sa mère, et il l'annonce. Il ne peut pas le garder pour lui. Son frémissement d'amour est comme le geste du prêtre élevant amoureusement l'hostie après la consécration pour offrir le sacrifice du Christ à Dieu le Père et sa présence à notre adoration. Saint Luc nous dit qu'après avoir senti son enfant tressaillir en elle, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et élevant la voix, elle s'écria « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Et d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car ta voix, lorsque tu m'as saluée, n'a pas plutôt frappé mes oreilles que mon enfant a tressailli de joie dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, car elles seront accomplies les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. » Saint Luc chapitre 1, versets 42 à 45. Première mission accomplie de Jean-Baptiste par Marie. Révéler la sainte présence du Sauveur et la proclamer en cette première fête Dieu où le Seigneur visite la terre mystérieusement blottie dans les entrailles maternelles. Dans l'humilité de cœur où vivent les deux femmes, il n'y a place que pour la gratitude et l'allégresse qui éclatent spontanément sur leurs lèvres. Élisabeth sait désormais que la maternité de sa jeune cousine la place infiniment au-dessus d'elle. Marie est la mère de son Seigneur. Elle sent monter dans son cœur une immense reconnaissance pour l'honneur qui lui est fait à travers la visite de la jeune femme. Marie exulte de bonheur dans sa réponse et ses paroles sont si belles que l'Église propose de s'associer à sa liesse et de les redire chaque soir en récitant ou en chantant le Magnificat, appelé encore « Cantique de Marie ». Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étale d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. L'humble majesté. Pénètre maintenant dans la petite chapelle adossée à la falaise. Sa porte vis-à-vis des scènes peintes que tu viens d'admirer te prie d'entrer avec l'élégance des porches gothiques dans un flamboiement de ferveur élancé vers le ciel, soulevé par la fierté joyeuse d'introduire en un lieu sacré les enfants de Dieu. Les présentations ont été faites, tu as compris celle qui te reçoit, Notre-Dame de Rocamadour. C'est Marie, la Vierge nourrie d'espérance, qui accueillit à Nazareth la faveur divine dans les paroles de l'archange Gabriel. La jeune femme débordante de joie et de gratitude dans les bras de sa cousine Élisabeth. La jeune accouchée en adoration devant son Dieu nouveau-né à Bethléem. Oui, tu entres bien dans le palais de la mère du Fils de Dieu. Simple chapelle de pierre, t'étonneras-tu ? Et sombre encore, malgré le clignotement des pieuses lumières offertes par ses hôtes. Certes, à première vue, c'est vrai. Mais n'oublie pas qu'avant d'être ainsi, ce lieu fut une grotte, comme il y en a beaucoup en ce coin du Quercy. Car depuis la grotte de Bethléem, la Vierge Marie aime l'intimité et le cœur à cœur, et c'est à cela qu'elle te convoque à présent. Regarde-la. Sa statue a été placée en hauteur, au-dessus de l'autel, pour qu'elle soit facilement à la vue de tous, à la portée du regard et du cœur. Car une audience avec Notre-Dame de Rocamadour n'est le privilège d'aucun initié, ni personnalité de haut rang, ni chef notablement élu, ni prince de sang ne saurait avoir la priorité sur toi. La Reine du Ciel, Dame du Tout-Puissant Seigneur qui créa l'univers, reçoit ici, dans l'instant même, tous ceux qui se donnent la peine de venir jusqu'à elle. Point de majordome pour contrôler la légitimité du rendez-vous. Les cartes d'invitation de Marie sont invisibles pour les hommes, lisibles uniquement au secret de l'âme. Non seulement tu as toutes tes chances d'être reçu, mais mieux encore, tu es le bienvenu, l'attendu, dont elle espérait patiemment la visite, avec cette inquiétude des mères qui se soucient particulièrement de leurs enfants, les plus éloignés, car elle n'est pas seulement la mère de Dieu, mais aussi la mère de tous. Tu veux savoir depuis quand ? C'est simple. C'était au pied de la croix de son fils où elle se tenait avec Saint Jean, Marie-Madeleine et une autre Marie. Elle voyait la chair de sa chair au supplice, son Jésus mortellement blessé et cloué sur le bois dressé au sommet du Golgotha. Parvenue à ce point culminant de la douleur et pourtant debout, elle reçut alors toute l'humanité dans son cœur maternel broyé par la souffrance à la demande de Jésus lui-même qui, en lui désignant Saint Jean, remettait tous les hommes entre ses bras affectueux. « Voici ton Fils !» Puis à ce disciple fidèle jusqu'au bout qui représentait l'humanité entière, jusqu'au bout du temps, il donnait Marie pour mère. « Voici ta mère !» Saint Jean, chapitre 19, verset 25. Et toi qui admires aujourd'hui la statue de cette Vierge noire, tu te trouves devant ta mère qui t'attendait. Te voilà saisie peut-être, sans plus savoir quoi dire, dans l'émotion nouvelle qui te prend. Alors ne crains pas de lui redire la salutation de l'ange qui lui rappellera le moment merveilleux de l'Annonciation. Elle commence par ces deux mots dont les initiales entrelacées figurent sur son blason. Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Tu admires la couronne qu'elle porte, qui atteste de sa réalité de reine. Et comme l'or suscite toujours des convoitises, sans scrupule, certaines de ses parures royales furent volées au cours des ans. Aussi la verras-tu sur des images et des photos, avec une couronne différente de celle qui la coiffe aujourd'hui dans sa chapelle. Mais qu'importe, puisqu'elle porte toujours majestueusement, avec la même bonté et la même grâce, les bijoux que ses enfants lui offrent sur la terre, comme ce collier incrusté dans le bois de sa statue elle-même. L'artiste qui l'a sculpté dans un bloc de noyer sombre a gardé l'anonymat, et le mystère demeure depuis au moins 9 siècles sur sa facture et son origine, comme si Marie voulait nous rappeler que toutes nos œuvres sur la terre ne sont jamais pour nous-mêmes personnellement, mais pour la joie de tous. Sans doute le sculpteur qui tailla le bois, tout comme le peintre qui illumina la roche de ses couleurs sur le parvis, n'imaginait pas qu'au XXIe siècle, des hommes contempleraient encore le fruit de leur inspiration. Mais la beauté demeure, surtout quand elle est si simple et si vraie, qu'elle montre l'essentiel. Pourtant, le véritable trésor de la Vierge Noire n'est pas constitué d'orfèvrerie, et elle ne veut pas le garder pour elle. Regarde, elle te présente son enfant. Pendant 9 mois, la Vierge Marie fut le tabernacle du corps de Dieu. Physiquement, il habita en elle tandis que grandissait son corps conformément aux lois de la nature humaine. Car Jésus est vraiment homme autant qu'il est vrai Dieu. C'est une vérité de notre foi. Et pendant cette attente, comme ensuite durant l'enfance et la vie publique du Christ, Marie gardait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Saint Luc, chapitre 2, verset 19. Cependant, quand la joie et la gratitude de la Vierge Marie éclatèrent à travers le chant du Magnificat chez sa cousine Élisabeth, tu as pu entendre cette phrase « Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles ». C'est bien elle, la simple jeune fille de Nazareth, qui est élevée au rang de reine. Et plus encore parce que le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Saint Jean, chapitre 3, verset 35. Dieu s'associe par son Fils à l'humble majesté de Marie. Tu vois que l'enfant Jésus est assis en effet sur le genou gauche de la Vierge, avec le maintien qui sied à un jeune roi. Il te reçoit avec Marie, devenu trône de la sagesse, car Jésus, Fils de Dieu, est la sagesse incarnée. Le mot « sagesse » ne signifie pas seulement cette juste connaissance des choses humaines qui donne à l'homme un comportement équilibré et paisible. Il désigne un attribut de Dieu qui est tout amour, qui possède l'être en plénitude, la parfaite connaissance du bien et du mal, et donc le vrai discernement pour juger. L'Esprit Saint, maître d'œuvre de l'acte créateur de Dieu, a la plénitude de la sagesse, dont la source est la parole divine. C'est cette sagesse que le roi Salomon a demandé à Dieu et qu'il a obtenue. Il en fait l'éloge que tu peux lire dans la Bible au livre de la sagesse. Qualité nécessaire pour exercer le pouvoir et pour gouverner avec justice. C'est une vertu qui donne au roi ou au chef la capacité d'assurer le bonheur des hommes qu'il sert sur la terre et qu'il est chargé de diriger vers le bien, puisque la charité est le fruit immédiat du don de sagesse. Regarde, Marie te montre le Verbe, selon l'expression de Saint Jean, c'est-à-dire la parole de Dieu incarnée, la sagesse adorable, le roi des rois. Pour que tu puisses l'adorer toi aussi, Marie te le présente comme elle l'avait offert son nouveau-né enveloppé de l'ange au berger pauvre, autant qu'au mage somptueux venu s'agenouiller devant lui dans la crèche de Bethléem. Mais peut-être t'interroges-tu, te demandant de quel royaume il est roi. Si tu lis les évangiles, tu verras qu'il ne manque pas de passages où il est fait allusion à sa royauté et à son royaume qui n'est pas de ce monde. Seulement, son royaume, en réalité, c'est l'amour. Jésus est le roi d'amour. Et cela fut si peu compris de ses contemporains qu'il fut couronné d'épines par une cruelle dérision durant sa passion. S'il accepta ce diadème d'horrible souffrance, c'est par amour pour nous, dans une parfaite obéissance envers Dieu le Père, qui voulait nous sauver du péché et de la mort éternelle. Toi aujourd'hui qui as la possibilité d'en savoir plus que les mages sur cet enfant, puisque tout a été raconté dans les évangiles, tu peux lui offrir le royaume de ton propre cœur. Dans la pénombre de la chapelle, il me semble entendre dire « Enfin tu es là, ma mère et moi nous t'attendions, et te voilà conviée à un cœur à cœur avec celui qui eut pour toi le cœur transpercé d'amour quand il était encore sur la croix. » De la chapelle de la Vierge à la basilique du Saint-Sauveur, il n'y a qu'un pas. Tu peux lire sur l'un de ses vitraux foisonnants de couleurs cette même invitation. « Reçois-la sans crainte. ton Sauveur est cet enfant Dieu trônant sur le genou de sa mère, vêtu de sa pourpre royale. Il est venu révéler l'amour infini du Père Tout-Puissant qui nous a créés et qui a donné tout pouvoir à son Fils. Jésus, roi d'amour, t'a préparé une place à côté de lui, sur le genou droit de sa bienheureuse mère, car il est ton frère en humanité. Et Marie, reine et mère de l'Église, veut rassembler tous ses enfants pour qu'ils soient unis à son Fils Jésus-Christ. Si tu as été baptisé, tu fais partie de l'Église. Tu as été marqué du sceau royal des enfants de Dieu et tu es membre de cette famille universelle qui constitue le corps mystique du Christ, appelé à partager avec lui l'héritage de la vie éternelle. Si tu ne l'es pas encore, c'est à ce baptême que t'appelle le Christ pour qu'en devenant enfant de Dieu sur la terre, quel que soit ton âge, tu deviennes aussi son frère et que tu sois membre de son corps pour l'éternité. Commentaire d'un vitrail. Tu vois sur le vitrail sept fleurs qui entourent la Vierge. Elles symbolisent les sept dons du Saint-Esprit dont Marie est remplie depuis sa conception immaculée. Le jour de la Pentecôte, les apôtres, réunis autour de leur mère, ont aussi reçu ces sept dons. L'intelligence, le conseil, la sagesse, la science, la piété, la force et la crainte de Dieu. C'est exactement ce que Jésus leur avait promis juste avant de les quitter le jour de son ascension au ciel. C'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Comme celle des arbres fruitiers, ces fleurs produisent des fruits. La tradition de l'Église en énumère 12, parmi lesquels il y a la charité, la joie, la paix, la patience et la fidélité, c'est-à-dire l'indispensable minimum pour le quotidien. Chacun de nous aussi peut recevoir ces dons et bénéficier de leurs fruits en demandant à l'Église le sacrement de la confirmation, suite essentielle du baptême. Sur ce vitrail, Marie, trône de la sagesse, est présentée au centre d'une mandorle écarlate. Le rouge est la couleur habituelle du pouvoir royal. Mais ici, c'est surtout le signe du brasier ardent de la charité divine qui laisse délicatement à Marie la joie d'être la trésorière et la dispensatrice des faveurs divines. Marie, médiatrice de toute grâce. Une seconde mandorlée enchâsse la première. Elle représente l'océan avec ses vagues, sur lesquelles règne Stella Maris, l'étoile de la mer, autre nom de la Vierge Marie. Dans la Bible, l'élément marin est un lieu de danger et de mort. C'est un gouffre qui engloutit l'homme, un lieu de perdition. C'est pourquoi depuis de nombreux siècles, Marie de Rocamadour est celle à qui les marins confient leur vie durant leur traversée de cet abîme. Nous lisons dans le livre des miracles de Notre-Dame de Rocamadour que dans les périls de leur navigation, les marins invoquent de toute la ferveur de leur âme l'étoile de la mer, Notre-Dame de Rocamadour, si douce pour ceux qui l'invoquent, toujours prête à exaucer. Et la Vierge accorde en abondance ses faveurs à ceux qui les lui demandent. Si la largesse est une des qualités habituelles de celui qui est noble de cœur ou de condition, la Reine du Ciel surpasse en générosité les plus nobles dames de la terre. D'ailleurs, elle n'a pas attendu d'être vénérée en ce lieu béni pour être attentive à nos difficultés quotidiennes. À Cana en Galilée, voyant le manque de vin pour les invités de la noce, elle suscita le premier miracle public du Christ. « Faites tout ce qu'il vous dira », conseilla-t-elle aux serviteurs qui assistèrent médusés à la transformation des 600 litres d'eau dont ils avaient rempli les jarres en excellent vin. Connus ou gardés dans le secret du fort intérieur, ce sont sans doute des milliers de grâces et de miracles que Marie a obtenus pour ses enfants qu'il appelle au secours sous le vocable de Notre-Dame de Rocamadour. Pour le seul 12e siècle, nous pouvons lire la recension de 126 intercessions de la Vierge dans ce livre des miracles rédigé en 1172 par un moine du prieuré de Rocamadour, livre qu'il voulait être comme un bouquet des miracles de la Vierge Marie. Dans un bouquet, on ne rassemble pas toutes les fleurs du jardin, mais on en sélectionne quelques-unes plus belles ou plus épanouies ou qui plaisent au regard tout simplement. Voilà comment débute son prologue. Au moment d'écrire la narration des miracles de la glorieuse Mère de Dieu toujours Vierge, Marie de Rocamadour, j'implore de toute mon âme l'assistance du Paraclet et du Saint-Esprit, surtout en songeant que dans les temps qui ont précédé le nôtre, il y a une telle quantité de faits miraculeux qu'il serait également impossible à la mémoire d'en conserver le souvenir, à la plume de les écrire, à la bouche la plus éloquente d'en faire le récit. C'est dire que bien avant cette date, de nombreux faits miraculeux ou des grâces obtenues étaient connues et racontées. Dans plusieurs récits de ce livre, la chapelle où reçoit la Vierge est appelée le propitiatoire. Selon l'Ancien Testament, le mot propitiatoire désignait le couvercle de l'Arche d'Alliance, ce coffre qui contenait les tables de la loi données par Dieu à Moïse et qui était le lieu de la présence et de la manifestation divine. Une fois par an, le jour du grand pardon, le prêtre chargé du sacrifice venait asperger ce couvercle du sang d'un animal dans le but d'obtenir de Dieu le pardon des péchés du peuple. C'était la préfiguration du sacrifice sanglant du Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et qui nous rétablit dans la grâce perdue depuis la faute originelle. Ici, Marie est pour nous le lieu des retrouvailles avec Dieu, qui s'est fait petit enfant en elle, parce qu'elle est la Shekinah, c'est-à-dire la demeure de Dieu, le lieu de sa présence glorieuse. Voilà que dans cette chapelle, face à la Vierge Mère, tu réponds, sans l'avoir voulu peut-être, au souhait du bienheureux Jean-Paul II, formulé ainsi en 2003 dans l'encyclique Ecclesia de Eucharistia. Contempler le visage du Christ et le contempler avec Marie, voilà le programme que j'ai indiqué à l'Église à l'aube du troisième millénaire, l'invitant à avancer au large sur l'océan de l'histoire avec l'enthousiasme de la nouvelle évangélisation. Si le grand large te fait peur, regarde les maquettes de bateaux offertes en ex-voto à la Vierge et rappelle-toi les nombreux marins sauvés en mer par celle qui règne sur les flots. Dans le livre des miracles, nous trouvons au moins 8 récits de protection miraculeuse de navigateurs, ainsi que des faits de noyade évités grâce à l'intervention de la Vierge, sans compter l'histoire de ces pirates sarrasins auxquels Marie ne permit pas d'attaquer un navire chrétien chargé de marchandises. La Vierge des Vierges met le désordre au milieu d'eux. Elle brise les mâts des galères, elle rompt les voiles. Elle arrête ainsi l'audace insolente de ces pirates incroyants. Et comme quelques heures après, nos matelots chrétiens font une autre rencontre semblable, la Vierge fidèle ne fait pas un miracle différent. Mais comme la première fois, elle brise les mâts, rompt les voiles et force les perfides à s'arrêter. Une autre fois, alors que leur navire a été englouti, des marins en perdition sur le point de se noyer dans les eaux glacées de l'océan tendent leurs mains en haut pour la prière et d'une voix pleine de soupirs et de sanglots, ils invoquent à grands cris l'étoile de la mer, Notre-Dame de Rocamadour implorant sa miséricorde. La Vierge glorieuse, digne partout d'être célébrée, fit en leur faveur un miracle tout à fait nouveau et vraiment inouï. Du fond des abîmes, elle ramena le navire sous leurs pieds. Il était plein d'eau toutefois, mais il vogua tranquillement vers le rivage sans le secours d'aucune rame. Alors nos marins, entièrement raidis par le froid glacial, ne craignent pas de solliciter encore le ciel pour obtenir d'être réchauffés. Le Saint-Esprit les remplit d'une chaleur plus forte que celle d'un feu matériel. Ils se sentirent tout brûlants au-dehors, dans et au dehors. Et on voit un bateau magnifique et en dessous il y a marqué un des bateaux suspendus dans la chapelle en signe de gratitude. Les récits de tels miracles volant de bouche en bouche Il n'est pas surprenant que la renommée de la Vierge de Rocamadour se répande partout, non seulement en France, mais aussi dans tout le monde chrétien. Ainsi, au Moyen-Âge, le sanctuaire de Rocamadour faisait partie des quatre lieux saints où l'on se rendait en pèlerinage avec Rome, Jérusalem et Saint-Jacques de Compostelle. Dévotion de prédilection des marins bretons, elle parvint grâce à eux jusqu'au Canada. Si une paroisse de Québec est dédiée à la Notre-Dame de Rocamadour, c'est en souvenir du miracle obtenu sur place en février 1536 par Jacques Cartier. Son équipage, en effet, était lourdement touché par une épidémie de scorbut qui sévissait. Alors que la grande Hermine était bloquée dans les glaces du Saint-Laurent, 25 matelots étaient sur le point de mourir. 75 étaient atteints et 10 membres de l'équipage seulement restaient valides. Jacques Cartier organisa une procession en l'honneur de la Vierge, fit célébrer une messe et promit de se rendre en pèlerinage au sanctuaire de Rocamadour si Notre-Dame épargnait la vie de ses marins et leur permettait de rentrer en France. Il fut exaucé. Ses compagnons furent guéris. Double grâce de la Vierge, puisque la rencontre providentielle des indigènes qui les soignèrent avec de la tisane de cèdre blanc permit à ces Indiens de découvrir aussi la foi chrétienne. Ce lieu devient le premier sanctuaire marial canadien. Beaucoup d'autres grâces de toutes sortes sont racontées dans ce livre des miracles. Leur variété correspond aux multiples besoins des hommes. Comme dans l'Évangile, de nombreux malades et infirmes sont guéris, des pécheurs sont convertis, des morts sont ressuscités, mais également des prisonniers sont délivrés, des innocents sont protégés des malfaiteurs. Ainsi s'exprime la maternelle sollicitude de celle que les orthodoxes appellent la Théotokos, la bienheureuse mère de Dieu. Également mère des hommes, comment pourrait-elle rester sourde aux plaintes et aux appels de ses enfants qu'il invoque sur la terre? Tous, elle les écoute et les exauce. Tous, elle les guérit. Tous, elle les secourt, écrit l'auteur du livre des miracles dans son prologue. Ajoutant encore, le Fils divin ne refuse rien à ce que sa mère désire obtenir. Maintenant, regarde son visage de plus près. Entièrement livrée à la présence de son visiteur, elle l'écoute les yeux fermés, parfaitement attentive, parce que chacun d'entre nous est son enfant de dilection, l'unique objet de son maternel souci. De même que l'aveugle a le sens auditif plus développé que ceux qui voient, la Vierge aux paupières closes, mère de miséricorde, entend, avec l'ouïe si fine de son cœur compatissant, la plainte des corps misérables et des âmes souffrantes. Et l'inexprimable de nos vies de pécheurs, enfouie par excès de douleur ou de honte, elle le connaît aussi sans montrer les larmes qui baignent alors ses yeux. Tu peux tout lui confier, infirmité du corps, chagrin et amertume, soucis et besoins présents, plaies du passé envenimées par les rancœurs, crainte d'avenir nourrie d'angoisse, et tant d'autres douleurs et de nécessités vitales. Elle est la mère des sept douleurs. Qui mieux qu'elle pourrait soulager les corps blessés et délivrer les cœurs tourmentés? Et s'il t'arrivait de croire que le mal est incurable et la douleur irrémédiable, ou que la noirceur de faute ancienne ternira à jamais ton âme, tourne-toi vers elle, la toute pure, l'immaculée, la nouvelle Ève préservée du péché, car une mère trouve toujours des circonstances atténuantes pour excuser les erreurs de son enfant. Elle te conduira à son fils, qui ne refuse rien à ce que sa mère désire obtenir. Et le Christ miséricordieux, accueillant ton repentir, te pardonnera tout à travers la bonté du prêtre qui entendra ta confession et te libérera de tes péchés. Car rien n'est impossible à Dieu.